Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et nous y sommes. Bonsoir Régis.
Bonsoir Odile, bonsoir à tous. Voilà, alors pour cette émission de fin avril, je vais vous proposer de vous parler de rapport qu'Amnesty vient de sortir cette semaine. Alors par rapport au projet de loi Asile et Immigration, ce texte que nous trouvons dangereux a été approuvé par les députés et il doit passer au Sénat, donc je vais vous en parler. Ensuite, je vous parlerai de la Turquie, une société qui est civile, qui est asphyxiée par le pouvoir en place. Ensuite, on parlera de qu'est-ce qu'un viol et est-ce que les pays européens le reconnaissent tous qu'un rapport sexuel sans consentement, ben, c'est un viol. Et puis on ira en Espagne pour parler du droit à la santé qui est dans le viseur de l'austérité. Et ensuite, on parlera de l'action d'Amnesty à Digne et notamment de sa foire au livre qui va se tenir le 18 et 19 mai à l'Atrium. Donc, je vous en dirai un peu plus. Voilà, donc on commence par... et puis oui, bien sûr, on mettra des chansons de Jacques Higelin qui nous a quittés, qui était... comme on en parlait tout à l'heure, un chanteur très, très généreux. Et voilà, donc...
Et qui luttait aussi beaucoup pour les droits humains.
Oui, oui, oui, c'était un ami d'Amnesty et toujours prêt à intervenir. Voilà, donc c'est un grand chanteur qui nous a quittés, mais ses chansons sont toujours avec nous. Voilà. Donc, ce projet de loi Asile et Immigration, nous avons beaucoup lutté contre ce texte. Et finalement, il a été approuvé par les députés avec quelques améliorations, mais très légères. Donc, ce qui nous inquiète vraiment, ce sont les sanctions injustes, la rétention des enfants, le doublement de la durée de rétention. Voilà, donc c'est un... L'état des lieux de ce projet asile-immigration avant son passage au Sénat, voilà où on en est. Alors il y a eu des débats et puis finalement les députés ont décidé de fixer la durée maximale de rétention à 90 jours au lieu de 135 jours, comme initialement prévu dans le projet de loi. Donc c'est une victoire qui en fait n'en est pas une parce que ça représente quand même le doublement de la durée de détention par rapport... à ce qui était avant ce texte. Et puis, ce qui est pire encore pour nous, c'est que les députés ont approuvé la possibilité de détenir des enfants dans des centres de détention qui seraient plus adaptés, entre guillemets. Pourtant, aucune personne migrante, et surtout pas un enfant, ne doit être détenu. Ces personnes n'ont commis aucun crime. Les effets traumatisants de la détention, notamment sur des enfants, ont été prouvés à maintes reprises. Faisant preuve d'une grande complaisance, les députés ont raté l'occasion de mettre fin à la détention des enfants en France. Ensuite, cette loi aussi, concernant le délit de solidarité, au lieu de l'abolir simplement, purement et simplement, parce que le délit et solidarité, ça va pas du tout ensemble, et puis ça va, délit de solidarité, c'est complètement contraire à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Donc la majorité des parlementaires ont manifestement pris conscience du fait que la loi française pouvait être utilisée pour poursuivre à tort des personnes apportant une aide, sans but lucratif, à des personnes étrangères. Mais cependant, malgré cette prise de conscience, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale n'est toujours pas alignée sur le droit international. La nouvelle liste des immunités et les conditions requises pour ne pas être poursuivis la seront tout de même une épée de Damoclès au-dessus des militants, citoyens et organisations qui agissent pour le respect des droits humains. Et dernièrement, il y a une personne à Briançon qui a été arrêtée et pour ne pas être conduite à la prison de Gap où il risquait d'avoir des manifestations de solidarité envers cette personne qui faisait preuve de solidarité envers d'autres personnes humaines. Il a été amené dans la prison des Baumettes, ce qui est quand même scandaleux quand on connaît la prison des Baumettes. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans une prochaine émission, parce qu'on a un rapport sur cette prison. Voilà, et puis donc, ce qui nous inquiète aussi beaucoup par rapport à cette loi asile et immigration, c'est la restriction du droit de recours. Les députés ont approuvé en état les mesures qui prévoient donc de raccourcir la durée du recours contre une première décision négative sur une demande d'asile et de renvoyer certaines personnes avant même la décision finale de leur demande. Donc la possibilité de faire recours dans de bonnes conditions est primordiale pour les demandeurs d'asile. Cela constitue leur dernière chance de se voir protégés d'un renvoi vers un pays où leur vie est en danger. Donc un renvoi qui serait contraire aux droits humains et notamment au droit d'asile, qui est le dernier des droits quand on a perdu tous les autres. Voilà, donc ils ont réduit cette durée de recours, ce qui fait que après une décision de refus de l'OFPRA, qui est l'office qui étudie la première demande, il y a le recours en commission de recours. Et la durée a été raccourcie, ce qui fait que les demandeurs d'asile vont avoir du mal à étoffer leur dossier, à trouver un avocat, parce que à cette commission, c'est une cour de justice, donc il faut qu'ils soient soutenus par un avocat. Donc c'est vraiment très, très dur de limiter ce temps pour faire appel. Voilà. Et puis, en plus, certaines personnes risquent d'être renvoyées avant même la décision finale de leur demande. Voilà. Tout ça, ça nous inquiète énormément. Donc, ce projet a été voté à l'Assemblée nationale. Il doit passer maintenant dans les mains des sénateurs. Donc, on espère que les sénateurs vont modifier ce texte pour qu'il revienne sur ces mesures dangereuses que je vous ai expliquées, voilà, pour les droits des réfugiés et des migrants en France. Donc nous, Amnesty, on va continuer maintenant d'interpeller les sénateurs au sujet de son examen au Sénat. Voilà. Alors on va écouter maintenant Jacques Higelin, Tête en l'air.
Détresse à l'éphémère, votre tristesse de la vie. my Lord.
Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté?
Il y a des allumettes au fond de ses yeux, des pianos à queue dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour.
Voilà, maintenant, on vient de publier aussi cette semaine un rapport sur la Turquie, une société civile asphyxiée. Voilà, la répression du gouvernement entrave le travail des défenseurs des droits humains en Turquie et plonge une grande partie de la société civile dans un état de peur constante. Retour donc sur presque 2 ans d'état d'urgence. Rares sont les secteurs de la société civile qui ont été épargnés par l'état d'urgence en vigueur. La répression au niveau national se traduit par des arrestations, des licenciements massifs et vide de sa substance le système juridique. Elle réduit au silence les défenseurs des droits humains qui sont menacés, harcelés et incarcérés. Décrétée en juillet 2016 à titre de mesure provisoire exceptionnelle au lendemain du coup d'état manqué, l'état d'urgence a été renouvelé pour la 7e fois la semaine dernière. En vertu de l'état d'exception, les droits à la liberté d'expression, à la liberté et à la sûreté, et à un procès équitable sont mis à mal. Les interdictions de nombreux rassemblements publics dans plusieurs villes en Turquie entravent le droit à la liberté de réunion et d'association. Plus de 100 000 personnes ont fait l'objet d'enquêtes pénales et au moins 50 000 sont incarcérées dans l'attente de leur procès. Plus de 107 000 fonctionnaires ont été sommairement limogés. De nombreux journalistes et défenseurs des droits humains parmi les plus éminents du pays, dont Taner Kilic, qui est le président d'Amnesty International Turquie, ont été incarcérés pour des accusations de terrorisme, accusations qui sont vraiment sans fondement. Mais ces arrestations, en fait, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les lois antiterroristes et les accusations forgées de toutes pièces sont invoquées pour réduire au silence la dissidence pacifique et légitime. Des journalistes, des universitaires, des défenseurs des droits humains et d'autres acteurs de la société civile sont soumis à la détention arbitraire, aux poursuites, et s'ils sont déclarés coupables à l'issue de procès iniques, condamnés à de lourdes peines. Ainsi, en février, les journalistes Nazlık İlikak, Ahmet Altan et Mehmet Altan ont été condamnés à la détention à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, uniquement en fait pour avoir fait leur travail de journaliste. La même sentence pourrait être prononcée contre l'avocate spécialisée dans la défense des droits humains, éditorialiste Orhan Kemal Sengiz, pour les commentaires critiques qu'il a émis sur les réseaux sociaux. La répression contre la dissidence a un impact dévastateur sur la liberté d'expression à travers le pays. En tant qu'avocate et défenseur des droits humains, Eren Keskin, qui fait l'objet de 140 poursuites, d'une interdiction de voyager et de peine de prison en instance d'appel, a déclaré « Je tente d'exprimer mes opinions librement, mais je suis parfaitement consciente de devoir y repenser à 2 fois avant de parler ou d'écrire. » Alors que l'offensive de l'armée turque à Afrin, dans le nord de la Syrie, a débuté le 20 janvier 2018, les autorités ont pris pour cible des centaines de personnes qui se sont déclarées opposées à cette intervention. Selon le ministère de l'Intérieur, au 26 février, 845 personnes avaient été arrêtées en raison de posts sur les réseaux sociaux, 643 soumises à des poursuites judiciaires et 1719 comptes de réseaux sociaux faisaient l'objet d'investigations en lien avec l'offensive menée à Afrin. Ali Erol, militant des droits humains, a été placé en garde à vue pendant 5 jours après avoir tweeté l'image d'un olivier assorti de hashtag pacifiste. Il fait l'objet d'une enquête pénale pour propagande pour une organisation terroriste et incitation à la haine et à l'inimité. En mars, plus de 20 étudiants ont été placés en garde à vue pour avoir participé à une manifestation contre la guerre dans leur campus. 10 d'entre eux ont ensuite été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Des ONG fermées, des organisations marginalisées. Plus de 1300 ONG ont été fermées en Turquie de manière permanente au titre de l'état d'urgence, en raison de liens peu précis avec des groupes terroristes. Il s'agit entre autres d'ONG qui faisaient un travail essentiel en aidant des groupes comme les victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre, les personnes déplacées, les enfants. Il y a par exemple le cas de l'association de femmes Van, où Zozanne Osgoz nous dit « Il existe désormais un immense vide en matière de conseils et de soutien apportés aux victimes. Cela me brise le cœur. » En effet, son association, qui a été fermée par le pouvoir en Turquie, a contribué à sensibiliser les enfants aux sévices sexuels et à dispenser aux femmes une formation en leadership et éducation financière. Cette organisation est fermée par le pouvoir et voilà, donc c'est au nom de la soi-disant lutte contre le terrorisme, on s'en prend à tout ce qui ne va pas dans le sens du pouvoir. Donc c'est une situation qui nous inquiète de plus en plus en Turquie, voilà. Alors bon, maintenant, pour redonner un peu de joie avec ces nouvelles qui sont pas très tristes, on va écouter Jacques Higelin avec « La joie de vivre ».
Voilà, Jacques Higelin.
Voilà, maintenant, on va parler d'un rapport aussi qu'Amnesty vient de publier le 25 avril. Voilà, on dénonce que seulement 9 pays européens reconnaissent qu'un rapport sexuel sans consentement est un viol. Pourtant, ça paraît assez logique. Hein. Voilà, dans l'Union européenne, il y a environ 9 millions de femmes âgées de 15 ans ou plus qui ont été violées. Ce chiffre est choquant, mais il est tout aussi alarmant de constater que peu de pays européens considèrent ce crime avec la gravité qui s'impose, en droit comme en pratique. Donc, comme je vous le disais, 9 pays européens sur les 33 de l'espace économique européen, en prenant en compte séparément les trois systèmes juridiques du Royaume-Uni, reconnaissent cette simple vérité, un rapport sexuel sans consentement est un viol. Quel est le message envoyé aux agresseurs? Comment est-il reçu au sein de nos sociétés, où les victimes sont encore très largement tenues pour responsables des agressions sexuelles dont elles font l'objet? En ne reconnaissant pas qu'un rapport sexuel non consenti est un viol, la loi contribue à renforcer l'idée selon laquelle, en tant que femme, il relèverait de leur responsabilité de se protéger du viol. Ces attitudes sont dangereuses et doivent changer. Alors, quels sont ces 9 pays qui reconnaissent qu'un rapport non consenti est un viol? Nous avons l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord, la République d'Irlande, ainsi que la Belgique, Chypre, le Luxembourg et l'Allemagne.
Et la France?
Pas la France. Tous ces pays ont adopté des définitions fondées sur le consentement. Mais les autres pays européens accusent un retard considérable, puisque leur législation pénale définit toujours le viol en fonction du recours à la force physique ou de la menace de le faire, de la contrainte ou encore de l'incapacité de se défendre. Une définition juridique du viol fondée sur l'absence de consentement n'est pas un concept nouveau et révolutionnaire. Il s'agit d'une norme internationale relative aux droits humains qui est reconnue, notamment par la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, qu'on appelle Convention d'Istanbul, qui a largement considéré comme le cadre juridique le plus exhaustif à ce jour en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, oblige ses signataires à ériger en infraction tous les actes à caractère sexuel non consentis. Alors que la Convention d'Istanbul a été ratifiée par plus de 20 États européens, la majorité d'entre eux n'ont toujours pas modifié leur définition juridique du viol. Ces 5 dernières années, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a sommé plusieurs États de mettre leur législation sur le viol en conformité avec les normes internationales, en particulier la Convention d'Istanbul, et de définir le viol par l'absence de consentement. 70% des 298 femmes victimes de viol ayant participé à l'étude avaient été frappées de paralysie involontaire pendant l'agression. En réalité, même si on pourrait s'attendre à ce qu'une victime de viol de type s'oppose physiquement à son agresseur, la sidération est une réaction physiologique et psychologique couramment constatée en cas d'agression sexuelle qui empêche la personne de s'opposer à l'agression, l'obligeant même souvent à rester immobile. Et cet état de sidération se retrouve encore plus fréquemment chez les enfants qui sont violés par des adultes, où là, vraiment, il y a une incompréhension qui est totale et qui fait qu'il n'y a aucune réaction. Ainsi, une étude clinique suédoise en 2017 a établi que 70% des 298 femmes victimes de viol ayant participé à l'étude avaient été frappées de paralysie involontaire pendant cette agression. Voilà, les définitions du viol fondées sur le consentement et les réformes juridiques ne sont pas des solutions miracles pour lutter contre ce crime omniprésent et pour l'empêcher, mais elles constituent un bon point de départ. Donc il serait temps que les États européens qui n'ont pas mis cette définition dans leur législation le fassent rapidement.
C'est quand même dingue qu'il n'y ait que 9 pays qui aient reconnu
pays,
ça.
9 pays, oui, qui ont reconnu, ouais. La mise en œuvre de ces réformes et la prévention sont freinées par l'existence de nombreux préjugés, la stigmatisation des victimes, les stéréotypes et les idées reçues, donc elles ont cherché, elles ont attiré, tout ce qu'on peut entendre, hein. Souvent chez les personnes chargées de prévenir les viols et de permettre aux victimes d'accéder à la justice. Avec le mouvement hashtag MeToo, les femmes peuvent faire entendre leur voix d'une façon probablement inédite. Mais ce n'est pas seulement aux militantes de changer les choses. Le droit de ne pas subir de viol est un droit fondamental. Il est grand temps pour les États de prendre leurs responsabilités et d'intervenir pour faire reconnaître légalement qu'un rapport sexuel sans consentement, c'est un viol. Voilà. Voilà le rapport d'Amnesty que vous pouvez lire sur amnesty.fr, bien sûr. Nous allons maintenant écouter une chanson qui a rapport avec ce que je viens de vous lire. C'est du groupe Cantadis, ça s'appelle « Samedi soir ».
Samedi soir, j'ai peur dans la...
On va le remettre tout de suite, puisqu'il y a la playlist qui se met en route. C'est donc « Samedi soir », on l'écoute.
Avec la... Le samedi soir, j'ai peur dans la ville, dans le noir. Les hommes sont des loups, les regards étincellent, les mains se font frôleuses dans les rues, dans les bars. La ville est à eux, les voitures sont des pièges, les collets sont posés, c'est la chasse à la femme. La femme du samedi soir est en habit de cafard. Marcher seule est un crime qui se paie par la dîme, des gestes, des appels obscènes. Tu ne sortiras pas le soir, tu n'iras pas au cinéma, tu ne boiras pas dans les bars, ne marcheras pas dans les rues quand vient le samedi soir. Tout ça c'est interdit, on te l'a pourtant dit, quatre murs et un toit, il faut rester chez toi. Viens le samedi soir, j'ai peur dans la ville, dans le noir. Liberté surveillée, liberté provisoire, couvre-feu pour les femmes, les arabes et les vieux.
Voilà, alors Amnesty International, on s'occupe de l'ensemble des droits humains, puisqu'on considère que tous les droits sont liés entre eux. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, et tous sont liés du fait que quand des personnes n'ont pas un droit, il en découle d'autres droits qui ne sont pas respectés pour ces personnes, et notamment pour les personnes les plus pauvres dans les sociétés. Alors on s'est intéressé, on vient de sortir un rapport sur l'Espagne, et on s'est intéressé au droit à la santé qui est dans le viseur de l'austérité. Ces fameuses politiques européennes d'austérité. Et donc on a étudié ces mesures adoptées par l'Espagne. Et on pense qu'elles sont absolument incompatibles avec les obligations du gouvernement liées au respect du droit à la santé, qui est un droit fondamental. Nous avons parlé avec des patients atteints d'un cancer qui n'ont pas les moyens de se procurer les médicaments dont ils ont besoin pour atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie, et avec des personnes souffrant de troubles mentaux qui ont vu les aides qu'ils recevaient brutalement supprimées. Ces réductions des dépenses ne sont pas simplement rétrogrades, elles sont aussi cruelles. Le gouvernement espagnol a commencé à réduire les dépenses de santé en 2009, à la suite de la crise financière mondiale. Les mesures d'austérité, notamment celles adoptées au titre de décret-loi royale, incluent une modification du coût de certains produits au détriment des personnes, une restriction des soins de santé disponibles pour les migrants en situation irrégulière et une réduction des dépenses de santé liées aux infrastructures, aux équipements et au personnel de santé. Nous nous sommes entretenus avec des centaines d'usagers du système national de santé espagnol, des professionnels de santé, des experts en santé publique. Les soins de santé ont été affectés par l'austérité pour les personnes les plus fragiles et pour celles présentant un risque majoré. C'est d'une cruauté presque insupportable. Depuis le lancement du plan d'austérité, de nombreuses personnes atteintes de problèmes de santé chroniques ont du mal à payer des médicaments qui étaient autrefois gratuits. Même si les sommes en jeu peuvent ne pas paraître élevées, ces dépenses supplémentaires ont des effets catastrophiques pour des personnes à faible revenu. Des personnes ont indiqué que ce sont à présent leurs proches qui payent leurs soins de santé, et d'autres qu'elles ont été obligées de faire un choix pour ne retenir que les médicaments dont elles avaient le plus besoin. Un homme qu'on appellera V, atteint d'un handicap physique, a dit qu'il doit parfois choisir d'acheter des médicaments plutôt que de la nourriture. Voici ce qu'il nous a dit. « Je ne supporte pas la douleur, j'ai besoin de prendre mes médicaments. Soit je prends mes médicaments, soit je me tue à cause de cette douleur. Alors si je suis obligé de me priver de nourriture, je n'hésite pas, parce qu'il me faut acheter ces médicaments. » La liste d'attente de plus en plus longue pour l'accès aux soins de santé sont aussi un problème crucial qui a été pointé à chaque fois lors des entretiens, y compris par les experts, les professionnels de santé et les utilisateurs du système de santé. En 2010, le temps d'attente moyen pour une intervention chirurgicale non urgente était de 65 jours. En 2016, il avait presque doublé, passant à 115 jours. Une femme de 49 ans, souffrant d'une maladie dégénérative des os, est allée voir le médecin en 2017 parce qu'elle avait mal aux jambes. Le premier rendez-vous avec un spécialiste qu'on a pu lui proposer est en juin 2018. Cette personne ne peut que prendre des antalgiques et elle est de plus en plus inquiète pour sa santé. Les services de santé mentale ont eux aussi été durement frappés par l'austérité. Dans un contexte où le chômage et les expulsions, associés aux risques liés à la santé mentale, ont fortement augmenté. Des personnes cherchant à obtenir les soins de santé mentale au sein du Service national de santé ont expliqué à Amnesty International que leurs symptômes et problèmes n'ont pas été traités pendant longtemps en raison de longues listes d'attente, ce qui a souvent aggravé leur souffrance. Compte tenu des dangers liés à l'austérité, des organes internationaux de défense des droits humains ont établi des lignes directrices pour que ces mesures d'austérité n'aillent pas à l'encontre des obligations des États en matière de droits humains. Le gouvernement espagnol n'a pas respecté ces lignes directrices internationales, notamment pour les raisons suivantes. Aucune évaluation de l'impact sur les droits humains n'a été menée en amont de la mise en œuvre de ces mesures d'austérité et les niveaux de participation et de consultation concernant les modalités de leur mise en œuvre ont été insuffisants. Les mesures d'austérité ont des effets disproportionnés sur les populations marginalisées. Les solutions de remplacement envisageables n'ont pas toutes été étudiées. Donc on en conclut que l'Espagne manque à ses obligations en matière de droit à la santé de ses habitants. Voilà donc un rapport que vous pouvez aussi relire sur le site d'amnesty.fr sur le droit à la santé en Espagne qui est mise en cause par ces mesures d'austérité, notamment mise en cause pour les personnes les plus pauvres du pays. On va à nouveau écouter Jacques Higelin avec cette chanson, La croisade des enfants.
Chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie. dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie. C'est grand pour la vie.
Voir pour comprendre. La Déclaration universelle des droits de l'homme.
Voilà, on va vous parler un petit peu maintenant de l'activité du groupe de Digne. Donc, nous continuons. Nous avons fait le festival du film au mois de mars. À ce propos, donc, le court-métrage qu'on a passé sur le migrant syrien qui était accueilli par un vigneron au pied du Mont Ventoux. Un vigneron qui parlait arabe parce qu'il avait travaillé dans des vignes au Liban. Ce court-métrage a reçu le prix du public du festival d'Amnesty International en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Donc on continue aussi à travailler pour les migrants, hein, à les soutenir, à les accompagner dans leur demande d'asile. Et puis, donc on va, au mois de mai, là, le vendredi 18 et samedi 19 mai, nous organisons notre foire aux livres de printemps traditionnel dans la salle de l'Atrium, à côté de la mairie de Digne. Donc le vendredi 18 mai, ce sera ouvert au public de 14h à 19h30. Et puis le samedi 19 mai, ce sera ouvert de 9h à 18h, donc ça restera ouvert entre midi et 2. Voilà, donc on compte sur la venue de beaucoup de monde pour nous acheter ces livres à prix modique. Donc on a reçu une quantité de livres depuis la dernière foire aux livres. Comme ce qui fait que si vous venez, vous verrez beaucoup de nouveautés. Alors tout cet argent que l'on récolte durant ces foires aux livres, à quoi ça sert? Alors d'abord, ça sert à payer la cotisation du groupe auprès d'Amnesty International France, qui ensuite, Amnesty International France, paye une cotisation au niveau international. Et cela permet justement de payer nos chercheurs qui vont dans les pays où il y a des graves violations des droits humains pour faire des enquêtes, de payer nos rapports, de payer les actions urgentes que nous allons faire, toutes les manifestations d'Amnesty International, de soutenir les défenseurs des droits humains, etc. Au niveau du groupe, on va aussi, grâce à cet argent, faire des projets de groupe, comme par exemple, ou de région, comme le festival de cinéma. On aide, donc on accompagne les demandeurs d'asile, on paie les déplacements des jeunes qui nous soutiennent, qui ont créé une antenne jeune. Donc on va payer les déplacements pour qu'ils aillent se former, parce qu'ils ont cette volonté de participer à Amnesty International, mais aussi il faut qu'ils s'informent, qu'ils se renseignent sur les droits humains, sur le fonctionnement d'Amnesty, etc. On fait aussi, au niveau du groupe de Digne, une aide aux structures francophones d'Amnesty International, hein, notamment dans les pays francophones d'Afrique, où ils ont besoin d'argent pour se développer. Et puis le groupe dinois aussi fait un don à une association qui a été créée en partie par Amnesty International, qui s'appelle l'association Primo Levi, du nom de ce grand auteur italien qui a vécu les camps de concentration. Et donc cette association, elle a pour but de donner un soutien psychologique aux personnes victimes de torture qui sont en France, et notamment en priorité aux enfants, hein, aux enfants qui ont connu des choses horribles dans leur pays, qui ont fui avec leurs parents ou qui ont fui seuls les atrocités et qui sont traumatisés, qui ont besoin d'aide, de réconfort. Et donc cette association Primo Levi, nous l'aidons, et d'ailleurs j'invite aussi tous les auditeurs à aller sur le site de Primo Levi et faire des dons, parce que c'est une association qui est essentielle et elle a vraiment besoin d'aide au financement, parce qu'elle n'a pas beaucoup de subventions. Voilà, donc je vous rappelle notre foire aux livres. Le vendredi 18 mai,
de
14h à 19h30, voilà. On reste ouvert très longtemps, justement, pour les gens qui travaillent, qui puissent venir après leur travail. Et puis le samedi 19 mai, le jour du marché, donc en allant faire votre marché, vous pourrez aussi faire le plein de livres pour cet été. Donc le 19 mai, le samedi 19 mai, nous serons ouverts de 9h à 18h sans interruption. Donc, venez nombreux, parlez-en autour de vous.
C'est vrai qu'il y a vraiment de toutes les catégories de livres pour les enfants, les
voilà,
adultes.
Voilà, donc on va les installer.
C'est très bien placé d'ailleurs, hein, pour féliciter les bénévoles, parce que vraiment, c'est un sacré boulot de rangement.
C'est un boulot énorme, oui. Donc, le mercredi 16, on va les installer. Donc, on va les porter. Le Secours Populaire nous prête sa camionnette. Et on les amène à l'atrium, et puis on passe en fait toute la journée du jeudi à les militants d'Amnesty et puis des sympathisants qui viennent nous aider à les ranger. Donc on fait un coin livre d'histoire, un coin géographie, un coin religion, un coin sport, voyage. Ensuite, il y a tout l'espace des romans. Un espace livre de poche, on en a aussi beaucoup, un espace enfant, livre d'enfant, un espace livre de recettes, vie pratique, etc. Et puis il y a aussi un espace littérature, éducation, voilà, livre, pas trop livre scolaire, mais parascolaire. Qu'est-ce que j'oublie ? On a des bandes dessinées, un espace aussi de livres de la région, sur la région. Et puis, on a aussi des CD, des DVD, voilà.
Et à des prix...
Voilà, donc on...
Défiant toute concurrence. Non, c'est sympa, déjà, pour ceux qui aiment fouiner.
Voilà, donc on essaye de ranger au maximum, parce que c'est vrai que quand c'est en panique, on se décourage. Hein, donc, le fait de bien les... De bien les ranger, ça aide à choisir. Et puis, c'est vrai que les gens reviennent volontiers. Ils nous ramènent des livres. Ils nous en amènent aussi, qu'on met en rayon. Et donc, il y a toujours des nouveautés. Et puis, il y a des gens qui sont tout contents parce que ça fait des années qu'ils cherchaient tel livre et ils viennent de le trouver. Voilà, alors ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que... Nous, financièrement, ça nous aide beaucoup parce que, je vous rappelle, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Amnesty International est une des rares associations à ne pas recevoir de subventions pour la bonne raison qu'on n'en demande aucune, puisqu'on interpelle les États et on interpelle aussi les sociétés multinationales par rapport à leur obligation eu égard aux droits humains. Donc, on ne peut pas à la fois les interpeller et puis leur demander de l'argent. Donc pour garder cette indépendance qui est essentielle pour Amnesty International, on ne demande aucune subvention. Ce qui fait que Amnesty International, c'est quand même une très très grosse organisation mondiale avec énormément de chercheurs, de salariés. Il y a beaucoup de bénévoles bien sûr, mais il y a aussi des salariés. Et donc on sort des rapports, on envoie des chercheurs un peu partout dans le monde. Et donc ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est grâce donc aux dons, aux ventes de livres, aux cotisations des groupes, aux cotisations des membres, aux legs de particuliers, de sympathisants dans le monde entier qu'Amnesty International peut se développer. Donc je vous invite vivement à venir à notre foire aux livres le 18 et 19 mai, salle de l'Atrium, en plein centre de Digne-les-Bains. Voilà, alors il reste 10 minutes. Je vous propose d'écouter Guillaume Meurice, qui est un journaliste bien connu de France Inter, qui, pour Amnesty International, nous parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui remet bien en perspective ce grand texte sur lequel Amnesty s'appuie avec la vie de tous les jours, la vie actuelle.
Voir pour comprendre. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Voir pour comprendre. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Emprisonnement injustifié de journalistes en Turquie, situation effroyable des civils en Syrie, traitement inhumain des réfugiés en France, les violations des droits humains ne cessent de faire la une de l'actualité. Alors quels sont ces fameux droits si souvent invoqués et si rarement respectés ? Il était une fois la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'on bascule plus jamais dans une telle barbarie, la communauté internationale a décidé d'élaborer un texte sur les droits communs à toutes et à tous. Un texte qui s'impose à tous les États, et qui protège tous les êtres humains contre toutes les discriminations. Un texte qui garantit le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité, à la sécurité, à la santé, à la liberté d'expression et d'opinion, à l'éducation, à une justice équitable. C'est comme ça qu'au bout de 4 ans de travail acharné, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée par les Nations Unies. Retranscrit dans plus de 500 langues, c'est un des textes les plus traduits au monde. Mais cette déclaration ne sort pas de nulle part. Plusieurs textes, tout au long de l'histoire des sociétés humaines, ont posé des règles de vie communes. Le cylindre de Cyrus, écrit en Perse en 539 avant Jésus-Christ, est considéré comme la première déclaration des droits de l'homme dans le monde. On y retrouve le droit à l'égalité et la liberté de choisir sa religion. La charte du Mandé en Afrique de l'Ouest, élaborée au XIIe siècle, incluait les principes d'égalité, le respect d'autrui, le droit de réparation en cas de préjudice, et interdisait l'esclavage. La Magna Carta, rédigée en 1215, prévoyait pour la première fois au monde des mesures de protection de la liberté individuelle. En Angleterre, le Bill of Rights de 1689 mettait la loi au-dessus du roi. L'habeas corpus en 1679 limitait la détention provisoire arbitraire. Le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance des États-Unis consacrait les principes de droits inaliénables des individus, d'égalité des hommes, de respect de l'opinion, de l'humanité et proclamait le droit à la recherche du bonheur. En 1789, en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui définissait à nouveau les droits de l'homme comme inaliénables, fondamentaux et naturels. Ils étaient accordés aux hommes du simple fait de leur existence. D'ailleurs, on parle de droits de l'homme ou de droits humains ? Avant d'aller plus loin, un petit aparté pour comprendre pourquoi il est important de faire la distinction entre droits de l'homme et droits humains. Les révolutionnaires français, dans leur déclaration, ont refusé d'accorder aux femmes les droits qu'ils accordaient aux hommes. En parlant de droits de l'homme, ils privaient donc la moitié de la population de ses droits. Même si c'est pas le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'expression « droits de l'homme » conserve une certaine ambiguïté. C'est pourquoi à Amnesty International, parmi d'autres organisations, nous avons choisi d'utiliser en français l'expression « droits humains » depuis 1997. Alors quels sont précisément ces droits ? Ces droits, regroupés en 30 articles, assurent la protection fondamentale de la personne et de sa dignité. Le but de l'ensemble de ces droits est la protection fondamentale de la personne humaine et de sa dignité, en temps de paix comme en temps de guerre, et quel que soit le régime politique d'un État. Le premier article est le plus connu. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ces droits sont répartis entre la première, la deuxième et la troisième génération. Les droits de la première génération, ou droits civils et politiques, remontent aux déclarations des droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle. Ils sont énoncés pour permettre à chacune et chacun de se défendre contre les abus des États. On y retrouve la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, de religion, le droit des minorités, l'interdiction des discriminations, de la torture, de l'esclavage. Les droits de la deuxième génération, ou droits économiques, sociaux et culturels, sont apparus en réaction à l'appauvrissement et à l'exploitation des populations au cours du XIXe siècle. Ils ont pour but d'assurer à chacune et chacun la satisfaction de ses besoins de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. C'est le droit au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la formation, la protection de la famille, des enfants, qui engage l'intervention de l'État. Les droits de la troisième génération, droits collectifs ou solidaires, émergent dans les années 70. Ce sont les droits au développement, à la paix, à un environnement propre et sain, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quels sont donc les grands principes qui régissent ces droits ? Nous avons tous une vision personnelle des droits humains. Elle est issue de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs. C'est pourquoi, pour que nous puissions jouir de nos droits fondamentaux, quel que soit l'endroit où nous vivons, d'où nous venons et qui que nous soyons, les droits humains sont universels, indivisibles et inaliénables. Universels. Ça signifie qu'ils s'appliquent à tous les individus, partout dans le monde, sans limite de temps. Chacun peut faire valoir tous ses droits et toutes ses libertés proclamées, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Interdépendants, indivisibles et intimement liés. Ça signifie que tous les droits humains ont la même importance. Personne ne peut décider que certains droits sont plus importants que d'autres. Et l'atteinte à un droit a des répercussions négatives sur les autres droits. Prenons un exemple. Si t'as pas de maison, donc tu dors dans la rue, tu dors mal, t'as froid, tu risques de te faire agresser, tu tombes malade, si t'es un enfant, tu vas pas à l'école, si t'es un adulte, tu trouves pas de travail. Donc la violation du droit au logement entraîne celle du droit au repos, aux soins, à l'éducation, au travail et bien d'autres encore. Inaliénable ou inné, ça signifie que les droits humains ne peuvent pas être retirés. En aucune circonstance, pas même dans des situations d'urgence ou en temps de guerre. Ils sont inséparables de l'existence de l'homme qui les possède dès sa naissance, du simple fait d'être un être humain. Où en sommes-nous aujourd'hui ? On peut se réjouir. Au XXe siècle, de nombreux progrès ont été réalisés. La peine de mort est abolie dans un nombre croissant de pays, des instances internationales comme la Cour pénale internationale sont mises en place, le traité sur le commerce des armes permet un contrôle de plus en plus efficace, le mariage pour tous devient légal dans certains pays, et de plus en plus de gens ont conscience qu'il est impensable de vivre comme si ce qui se passe à l'autre bout du monde ne nous concernait pas. Bon, on se réjouit pas trop longtemps non plus, parce que malheureusement, dans de nombreuses parties du monde également, des personnes sont emprisonnées ou tuées pour leur opinion, la torture est encore pratiquée, des millions de gens subissent des discriminations en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur sexe. Des milliers de personnes fuient quotidiennement des pays en guerre sans trouver l'asile et la protection qui leur est due dans d'autres pays. Il faut bien comprendre que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un idéal, un fabuleux idéal à atteindre par les nations et les peuples qui s'y engagent moralement. C'est pas un texte de loi, c'est un texte non contraignant qui n'est pas valable devant un tribunal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet idéal devienne une réalité ? Faire triompher l'idéal des droits universels, c'est une affaire de conscience collective et de responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous pour le bien de tous. C'est un fait, la déclaration est contestée et attaquée tous les jours. Elle n'est pas respectée dans sa globalité, alors que chaque violation nous fait courir le risque de plonger dans la barbarie. Alors oui, n'ayons pas peur de refuser toutes les dérives, sans exception. Si on subit une discrimination parce qu'on est différent, c'est inadmissible. Si quelqu'un est arrêté sans raison, c'est inadmissible. Si quelqu'un est battu dans un commissariat, c'est inadmissible. Si un enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il est rom, c'est inadmissible. Au niveau national, le rôle des États est bien entendu primordial. Ils doivent veiller à ce que toutes les personnes qui dépendent de leur juridiction bénéficient effectivement des droits garantis par le texte. Pour participer activement à l'application de cet idéal, beaucoup ont traduit ce texte international dans leur loi nationale. Cependant, il faut rester attentif car certains gouvernements, au nom de leur culture, ont adopté des lois nationales en contradiction avec des principes relevant de droits fondamentaux. Par exemple, les lois qui condamnent l'homosexualité. Parfois même, la déclaration sert d'excuse à des décisions qui la contredisent. C'est par exemple le cas de l'ouverture de la tristement célèbre prison de Guantanamo ou plus globalement des lois dites antiterroristes. Pour faire front à la menace terroriste, de nombreux États n'hésitent pas à limiter des libertés fondamentales. Au niveau international, il est essentiel de traduire en justice les auteurs de violations des droits humains. Sans justice, la paix et le respect des droits fondamentaux sont impossibles. Tant que les auteurs de crimes font ce qu'ils veulent sans jamais être punis, des enfants continueront d'être recrutés pour faire la guerre, des femmes seront violées et maltraitées, des villages entiers continueront d'être pillés et saccagés. Et pour que les victimes obtiennent réparation, il faut que les préjudices causés soient reconnus par la justice. Il existe aussi de nombreuses conventions qui ont été signées pour compléter et renforcer la déclaration. Des textes à portée universelle et à valeur juridique qui permettent de protéger un groupe particulier de personnes, comme les femmes, les enfants ou les migrants, ou de pallier une situation particulière. Lutte contre la torture, discrimination raciale. Le chemin est encore long avant que cet idéal devienne une évidence. Chaque pas accompli, chaque victoire obtenue nous en rapproche. Chacun d'entre nous peut devenir un acteur essentiel de cette évolution. Pour cela, il suffit jour après jour de s'engager en revendiquant haut et fort la liberté d'expression, en manifestant ou en signant des pétitions, en partageant des informations, en refusant systématiquement toutes les discriminations. Comme le disait Kofi Annan, les droits de l'homme sont des droits que toute personne possède en tant qu'être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Nous méritons tous les droits de l'homme. L'un ne va pas sans l'autre.